France Musique. Musicopolis. Vers 1811, Russie. C'est sans nul doute au plus tard en 1811 que John Field compose son deuxième concerto pour piano et orchestre. Au plus tard 1911, on en est sûr pour la bonne raison que c'est l'année de sa publication. Field est alors en Russie, entre Moscou et Saint-Pétersbourg. Comme vous l'avez sans doute deviné, John Field fait partie de l'armada de pianistes-compositeurs qui sillonnent l'Europe de l'Atlantique à l'Oural, ou presque, au début du XIXe siècle. Une période qui voit de grands changements dans la société européenne et probablement aussi dans son idéal sonore. Des changements qu'on peut suivre dans la carrière de John Field et dans l'évolution d'un instrument, le piano. John Field est né en 1782 à Dublin, dans une famille de musiciens. Son père et son grand-père sont ses premiers professeurs. Élevé à la dure, souvent battu, il fait une fugue, mais pas comme celle qu'il étudie, et ne revient que lorsque la faim l'y oblige. À 8 ou 9 ans, on l'envoie étudier chez un musicien immigré italien, Tommaso Giordani, qui fait une belle carrière en Angleterre et en Irlande, avec ses opéras et ses concertos pour clavecin. C'est dans l'un des concertos de Giordani, justement, que le jeune John Field, vers l'âge de 10 ans, donne son premier concert à Dublin en 1792. La limite entre clavecin et piano n'est pas très bien établie en 1792. Le clavecin est en train de perdre du terrain, c'est certain, mais tous les instruments n'ont pas encore été remplacés par des pianofortés. Ce qui fait que les compositeurs proposent des œuvres pour clavecin ou pianoforté. Et une chose est certaine, c'est que si le pianoforté présente de nouveaux avantages, comme celui de pouvoir, sur un même clavier, jouer fort ou doucement, son timbre n'est pas tellement différencié de celui de son prédécesseur. Dès ses premiers concerts à Dublin, le petit John Field a fait une considérable impression. Il est dans sa 11e année lorsque sa famille s'installe en Angleterre, à Bath d'abord, puis à Londres. La capitale britannique, celle de sa très gracieuse majesté George III, est alors en passe de devenir THE grande capitale musicale européenne. Et notamment parce que non seulement l'aristocratie anglaise favorise la musique, mais aussi parce qu'une grande partie de l'aristocratie française l'a rejointe depuis la Révolution. Voilà qui est bon pour les musiciens, qui eux aussi fuient des temps peu propices à l'expression de leur art. On trouve donc à Londres les Tchèques Dussek et Girovets, l'Allemand Kramer, l'Italien Clementi. C'est à Clementi que Papa Field va confier son rejeton pour un apprentissage très complet. Pendant qu'il est l'apprenti de Muzio Clementi, le petit John Field doit non seulement travailler son piano, mais aussi aider le maître dans son négoce de vente de pianos. Notamment, dit-on, en jouant pour les acheteurs potentiels pour leur montrer la qualité des instruments. Un peu comme Gershwin qui jouera quelques 110 ans plus tard dans Tin Pan Alley pour les clients new-yorkais en quête de partitions de chansons. Un travail très formateur certainement, mais dur. L'adolescent a des occasions de se faire entendre. En concert, en 1794 notamment, jouant une sonate de Clementi. Haydn, qui est à Londres à cette époque, écrit dans son journal « Field, un jeune garçon qui joue du pianoforte extrêmement bien ». En 1799, le « jeune garçon », ayant alors atteint l'âge de 16 ans, joue son premier concerto pour piano au théâtre de Haymarket. On applaudit non seulement sa grande maîtrise de l'instrument, mais aussi son talent naturel pour la composition. En 1802, Clementi pense que le petit Field a besoin de se développer en dehors du cercle londonien et il décide de l'emmener en tournée. Premier arrêt, Paris, où la situation politique s'est un peu calmée sous le consulat. Field fait sensation d'une part avec ses œuvres et d'autre part en jouant de mémoire des œuvres de Handel et les préludes et fugues de Bach. Thank you. Après Paris, la tournée de Clementi et Field les amène à Vienne. Clementi voudrait que le jeune homme reste là pour travailler le contrepoint avec Albrechtsberger. Mais Field préfère continuer et aller jusqu'à la destination finale de son mentor, Saint-Pétersbourg. Ils y sont enfin en décembre 1802. Le maître veut ouvrir une nouvelle boutique de piano et il attend que les instruments arrivent d'Angleterre. Clementi, très à l'aise en société et doué pour les langues, fait en sorte de s'introduire dans la bonne société pétersbourgeoise où il s'arrange pour jouer dans les salons, lui ou son élève, moyennant rétribution. Lorsque Field s'aperçoit que la rétribution passe toujours dans la poche de son professeur, il lui fait une farce en organisant aux frais du maître et à son insu un dîner d'une vingtaine de personnes. Très fâché, le Clementi va tout de même changer d'attitude ensuite, procurant à son cadet occasion de jouer et élève fortuné. Une fois assuré que son négoce de piano à Saint-Pétersbourg est bien engagé, Clementi repart pour Berlin, laissant Field sur place, heureux de sa nouvelle liberté et des promesses de réussite. Son premier concert dans la capitale impériale est un énorme succès et sonne le début d'une Field Fever, une Field Mania qui lui apporte invitation et nombreux élèves. Il reçoit le soutien et l'amitié de la noblesse. Il accompagne ses nouveaux amis à l'opéra, où les meilleurs compositeurs et chanteurs d'opéra italien sont invités à se produire. Il est certain qu'à l'opéra de Saint-Pétersbourg, John Field a eu accès au chant à l'italienne, de longues mélodies soutenues par une douce harmonie. Et que là, il a développé plus encore son goût du chant. On dit que, comme nul autre, il savait faire chanter son piano. En même temps que John Field s'applique à faire chanter son piano, il invente une nouvelle écriture, écriture d'atmosphère, qui non seulement s'appuie sur les volutes de la main droite, inspirée du chant des prima donna, mais aussi se soutient avec les belles basses données par la main gauche, et qui peuvent résonner suffisamment grâce au développement des nouveaux pianos anglais, comme ceux de la firme Clementi. Des pianos qui vont vers toujours plus de puissance et de résonance avec la pédale forte. Ce n'est pas pour rien qu'on dit de Field qu'il est l'inventeur du nocturne. À propos du deuxième nocturne de Field, Liszt écrira « Les teintes y sont plus sombres, comme celles de la lumière qui se perd dans l'ombrage profond d'une allée. On croit ressentir à travers ce chant une absence, dont un poète dit « L'absence est un monde sans soleil ». » C'est avec ce genre d'œuvre et cette écriture nouvelle que Field se montre déjà romantique, 20 ans avant la génération des Chopin, Liszt et Schumann. Peut-être que le fait d'être isolé des grands centres musicaux de l'Ouest a eu une certaine influence sur son imagination et que dans son laboratoire, loin des frimas de l'Est, mais très au fait des dernières productions en matière d'instruments piano, il a pu développer un nouvel idéal sonore. Notons tout de même que Saint-Pétersbourg et Moscou, où Field a vécu tour à tour, étaient un passage obligé pour tout artiste européen qui voulait se faire connaître. Et notre musicien a eu quand même l'occasion de rencontrer de nombreux interprètes et compositeurs venus jusque-là. À leur contact, il a pu ressentir une certaine émulation. Thank you. un journaliste parisien écrira quelques années plus tard du jeu de Field « Il est impossible de se figurer quelque chose de plus net, de plus précis, de plus perlé que le toucher de ce célèbre pianiste. Un trait de Field, c'est un collier de perles dont tous les grains sont dissemblables, mais sont combinés entre eux avec l'harmonie la plus parfaite. Sa main n'a point l'air de se mouvoir. Il n'est d'ailleurs pas moins étonnant dans l'art d'attaquer la note et de varier à l'infini les diverses nuances de force, de douceur et d'accent. » Et maintenant, reste une question. Qu'aurait pensé Field des pianos d'aujourd'hui ? Le final du deuxième concerto pour piano et orchestre de John Field avec Michal O'Rourke sur un piano Steinway & Sons et l'ensemble les London Mozart Players dirigé par Matthias Bamert. Avant, dans l'émission, vous avez entendu l'ensemble Concerto Köln avec Andreas Steyer sur un Broadwood de 1802. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Si vous voulez nous écrire pour nous dire un petit bonjour, vous pouvez passer par l'onglet Contact. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Françoise Monteil pour les recherches et le site, Claire Lagarde pour la réalisation et Julien Douminc pour le mixage.
À réécouter sur francemusique.fr.